Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne durant la case.
La beauté a-t-elle un sens ? La beauté est une manifestation privilégiée du goût et de l'identité. Dans une civilisation, elle s'incarne entre une esthétique et une vision du monde. Soumise aux temporalités de l'histoire et des civilisations, elle ne saurait avoir de stabilité. Multiple, pluriel, comme les visages de l'humanité, peut-on cependant déceler des indices esthétiques universels ? Par quel point commun les humains se comprennent sans dialogue par le sens qu'ils donnent à la beauté ? Cette quête de beauté obsède l'espèce humaine depuis 100 000 ans et le corps humain est son médium privilégié. Modelage, soins, coiffures, ornements, gestes signent l'extravagante variété de ses formes. La maison d'édition Gallimard a publié en 2009 le fruit d'une réflexion pluridisciplinaire internationale rassemblant les meilleurs experts sur les questions posées par la beauté et les représentations du corps dans toutes les civilisations. Cette aventure éditoriale sans précédent, en 5 volumes, accompagnée pour un tiers d'une iconographie exceptionnelle, réunit des centaines d'articles synthétiques écrits par des artistes, des anthropologues, des sociologues, des écrivains, des historiens, des critiques d'art et bien d'autres encore. L'ensemble est accessible et sans jargon technique. Chaque volume est placé sous la direction scientifique d'un spécialiste de la période, Pascal Pic pour la préhistoire, Georges Vigarello pour les volumes sur l'Antiquité et l'âge classique, Marc Nouchi pour la modernité, Elisabeth Azoulay et Françoise Gaillard pour un volume audacieux consacré au futur. L'ensemble de l'ouvrage est introduit par un essai de Michel Serres intitulé « Apparition, apparence, appareil ». Trois mots, trois variations pour répondre à cette question plus fondamentale qu'il n'y paraît et sujet de l'émission du jour, qu'est-ce que la beauté ? Au cœur de cette interrogation, le corps, médium privilégié de l'expression de la beauté. Bonjour et bienvenue dans Au fil des pages sur Canal Académie, en compagnie de Michel Serres. Michel Serres, bonjour.
Bonjour.
Sur quelle définition de la beauté tous les auteurs de l'ouvrage se sont-ils mis d'accord ou ont-ils
d'abord,
pu se mettre d'accord ?
Nous ne nous sommes pas rencontrés, d'abord pour commencer. Enfin, je ne les ai pas rencontrés, les auteurs en question. Mais la définition en question, d'abord, elle est sans doute inaccessible. Mais dans votre introduction, vous avez dit deux choses qui m'ont beaucoup frappé à propos de cette définition. Vous avez dit d'abord qu'elle est soumise à l'histoire, parce qu'elle est extraordinairement variable, et vous avez raison de le dire. Mais d'autre part, vous avez aussi souligné le fait que depuis 100 000 ans, et peut-être encore plus, les hommes, enfin les humains, homo sapiens, femmes, mâles et femelles, s'occupent de leur corps, c'est-à-dire de la beauté, donc elle est invariante par l'histoire. Et que probablement elle est invariante par l'histoire. Elle n'est pas soumise à l'histoire. Elle est transcendante par rapport à l'histoire. On la reconnaît toujours.
D'accord.
Et quand même, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire que nous soyons sensibles aux beautés de la grotte de Lascaux, et ça, il y a quand même des dizaines de milliers d'années, aux masques africains alors que nous sommes simplement nés en Occident, et ainsi de suite, ou aux vers d'Homère alors qu'ils ont, par rapport à nous, plusieurs millénaires de distance historique. Par conséquent, si vous voulez une définition de la beauté, elle doit hésiter ou frémir entre, premièrement, la variation folle de ces expressions que vous avez parfaitement exprimées, mais d'autre part, la pérennité absolument stable de sa présence. Vous voyez, alors c'est deux choses contradictoires, mais deux choses qui font probablement toute l'expérience esthétique, parce qu'on dit que la beauté va dépendre des goûts et des couleurs. Eh oui, mais vous savez bien, cher ami, pour sortir dans la rue, qu'il y a du mauvais goût et qu'il y a du bon goût, voyez. Et s'il y a du mauvais goût, c'est que probablement il y a du goût, d'une certaine manière. Donc, cette difficulté-là fonde probablement l'idée du livre.
Alors, dans cet essai, vous partez de trois mots pour répondre à cette question. Pour commencer, la première de ces variations, vous identifiez la beauté à l'apparition, à une apparition,
oui,
au mot apparition.
Je commence simplement par une expérience ordinaire.
Oui.
Que j'ai pu avoir moi-même quand je faisais cours devant un amphithéâtre ou quand on passe dans la rue ou n'importe quelle circonstance, où soudain on rencontre une personne ou un visage ou un paysage, enfin bref, quelque chose d'absolument beau. Et cela fait apparition, en effet, c'est-à-dire la perception ordinaire que je vois par la fenêtre des arbres en feuilles, vous voyez, ben c'est une perception, c'est une aperception, c'est une vue, c'est une vision, etc. Mais nous ne dirions pas apparition dans ces cas-là. Et soudain m'apparaît comme une sorte d'épiphanie, quelqu'un ou quelque chose ou des traits qui soudain s'imposent par leur présence comme justement beau ou belle. Vous voyez.
Vous écrivez,
c'est une apparition.
Elle surgit dans l'espace, toujours neuve dans le temps.
Alors, dans l'espace, elle est d'abord bien définie, indépendante, et je crois que je me souviens même avoir dit dans ce texte, qui est pourtant ancien, que ce ne sont pas les peintres qui ont inventé le cadre. Parce que dès lors qu'une apparition, en effet, survient dans votre cadre perceptif, c'est bien défini. C'est un visage parmi d'autres, et bien cadré, si j'ose dire, c'est-à-dire découpé dans la laideur ou l'ordinaire de votre vision. Et ça, c'est une sorte de localisation de la beauté. Et même, je vais plus loin, je crois me souvenir que dans certains cas, les peintres définissent un nimbe. Vous savez, comme pour faire bien voir la sainteté de la personne qu'ils sont en train de peindre. Et ce cadre ou ce nimbe, c'est bien ça, la définition, la localisation spatiale de cette apparition. Mais d'autre part, en effet, quand je dis toujours vierge, je veux dire par là que j'ai beau lire 100 fois l'apparition de Nausicaa jouant à la balle sur la plage devant les yeux étonnés de Ulysse naufragé, bien c'est toujours un texte nouveau. J'ai beau lire pour la 100e fois tel sonnet de Ronsard ou voir le bal des Folies Bergères 1000 fois, c'est toujours quelque chose de nouveau. Donc l'expression « toujours vierge », qui est une expression aussi religieuse que tout à l'heure j'ai dit « épiphanie », me paraît une très très bonne expression pour faire voir précisément le caractère temporel de l'apparition. Il apparaît spatialement découpé dans l'espace, l'apparition tout à fait définie par rapport au reste de la perception, et d'autre part toujours neuf, temporellement parlant.
Avons-nous tous un œil exercé?
Non.
Pour voir la beauté? Vous dites qu'il y a ceux qui la montrent, ceux qui la voient?
Non, en effet. Tout à l'heure j'ai dit qu'il y avait du goût, et peut-être il y a des gens qui ont, par exemple, physiologiquement, l'oreille absolue en matière musicale. Mais je crois que le goût s'éduque. Et non seulement il s'éduque pour l'individu, par l'exercice de la perception, mais aussi bien mondial d'ailleurs qu'esthétique, hein, aussi bien dans la perception visuelle ou sonore ordinaire que dans l'esthétique au sens des beaux-arts. Mais elle s'éduque aussi pour les civilisations, pour les cultures. Il y a des moments où, dans l'histoire, le 5e siècle avant Jésus-Christ, à Athènes par exemple, où les salons parisiens au 18e siècle, pour prendre un autre exemple, ont été des summums de goût. Voyez, nous pouvons dire qu'aujourd'hui, au 21e siècle, en 2010, nous pouvons dire que la classe dominante aujourd'hui en France, par exemple, et dans l'Occident en général, a probablement le goût le plus atroce de l'histoire, par exemple. C'est-à-dire que les plus riches sont aujourd'hui les gens qui sont le moins sensibles à ce que j'appelle l'apparition. Il suffit de se promener dans la rue pour être persuadé qu'aujourd'hui, nous sommes dans un siècle de la laideur. Je ne l'ai pas dit dans mon texte, mais il y a peu de choses qui apparaissent au sens que je donne à ce mot. Il y a une formation individuelle, une formation collective, mais elle peut être abandonnée. Par exemple, il m'arrive souvent, puisque je suis professeur aux États-Unis, de donner rendez-vous à mes étudiants devant un bâtiment, et je leur explique en une demi-heure pourquoi et comment c'est laid, pour les éduquer à la laideur. C'est très important. Il faut savoir quand même. Dans la formation, il est important de leur dire voilà pourquoi c'est laid. N'est-ce pas? Pourquoi il y a des cercles avec des ronds, avec des carrés à côté, etc. Pourquoi les couleurs sont atroces, etc. Et peu à peu, c'est très formateur. La laideur est très formatrice. Et donc, nous avons des possibilités de formation énormes aujourd'hui autour de nous.
Alors, deuxième variation de la beauté dans votre essai, l'apparence. On fait un usage des cosmétiques depuis la préhistoire.
Bien sûr, bien sûr.
Alors, à quoi le terme cosmétique renvoie-t-il pour le philosophe
alors,
des sciences?
Voilà, le mot cosmétique est quand même très étonnant. Il m'a toujours beaucoup étonné, il devrait étonner beaucoup, parce que je sache, à ma connaissance, qui est quand même faible, ça renvoie au monde, c'est-à-dire le cosmos est quand même le monde. Et d'autre part, pour expliquer ce phénomène de rapprochement entre le monde et l'apparence du visage, par exemple pour les fards, les cosmétiques, le mot « désir » me fait le même effet en latin que « cosmétique » en grec. Parce que le désir sexuel, par exemple, ou le désir amoureux, il ne faut pas oublier quand même que c'est « desiderium » et que dans « desiderium », il y a « sidéré », c'est-à-dire les astres. C'est formidable. C'est-à-dire, vous convoquez les astres dès lors que vous désirez une femme. Vous convoquez le cosmos dès lors que cette femme est fardée sur les pommettes ou sur les lèvres, vous voyez. C'est quand même très étonnant de voir se conjuguer tout à coup quelque chose qui paraît frivole d'un côté et quelque chose qui paraît fondamental de l'autre. Or, dans désir et cosmétique, on a justement la même tension. Et dans apparence, on a justement la même tension, en effet, parce qu'en général, les gens qui utilisent le mot apparence croient que derrière l'apparence, il y a de la réalité et que l'apparence est toujours fausse. Mais justement, pour le cosmos ou justement pour les astres, ça a été le problème.
Vous écrivez, loin de tromper l'apparence, exprime.
Exprime. Alors, je réhabilite, si vous voulez, la notion d'apparence en essayant de dire que le cosmétique et le désir ont des racines linguistiques qui évoquent quelque chose de beaucoup plus sérieux.
Alors, le cosmétique nous permet-il de mentir ou de révéler ?
Ah, c'est à vous le dire, ça, parce que j'utilise très peu de cosmétiques. Vous ne le direz pas à L'Oréal, vous utilisez assez peu de cosmétiques. Je ne crois pas que mentir soit une bonne expression, là. Je dirais volontiers souligner, vous voyez ? On souligne l'arc des sourcils, par exemple, on souligne le sourire des lèvres, etc. On lui donne un autre relief.
À vous lire, il n'y a pas grand-chose de naturel dans le cosmétique, quand même.
Pourtant, quand je dis cosmos, il n'y a rien de plus naturel que le monde. Quand je dis désir et astre, il n'y a rien de plus naturel que les astres, que je sache. Et par conséquent, nous parlerons, si vous voulez, du naturel et de l'artificiel au moment où je parlerai
d'accord.
De l'appareil.
Oui,
mais
si
là, pour l'apparence, il s'agit vraiment de l'enjeu et la réalité. Et je dis souvent, à cet égard, que ce pourquoi ce livre a été fait, alors ça je le sais, je ne sais pas si vous voulez comment il a été fait, mais je sais pourquoi il a été fait. Et ma conférence vient du fait que L'Oréal m'avait convoqué à un moment, parce qu'ils étaient très inquiets, et ils pensaient en effet que tout le monde avait l'idée que leur métier était frivole et sans intérêt.
Artificiel.
Artificiel, et puis comme ça, frivole. Et ils m'ont convoqué là-dessus, qu'est-ce qu'en penserait un philosophe ? Et je leur ai dit, écoutez, c'est quand même très simple. Ce qui paraît sérieux et non frivole, qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est les pneus, c'est les automobiles, c'est les tracteurs, c'est etc. Mais vous savez, il y a 100 000 ans, il n'y avait pas de pneus, il n'y avait pas d'automobiles et il n'y avait pas de tracteurs, ce qui vous paraît aujourd'hui sérieux. Mais il y avait déjà du cosmétique. Je suis prêt à parier une partie de ma fortune, aussi faible qu'elle soit, que Lucie se fardait. Il n'y a aucun doute sur ce point. Et que dans 100 000 ans, ma arrière-arrière-petite-fille se fardera, voyez, alors qu'il n'y aura plus ni Michelin, ni Peugeot, ni quoi que ce soit d'autre. Et par conséquent, vous êtes le métier le plus sérieux du monde. Et c'est pour ça que je parlais de cosmétique avec le monde et le désir avec les astres. C'est que c'est attaché au réel beaucoup plus que toutes sortes de choses qu'aujourd'hui, dans l'économie, on considère comme sérieux, comme réel.
Vous venez de dire qu'il y a le cosmétique, mais la beauté est née avec l'humanité, ou la perception, ou son expression.
J'aurais dit ça il y a quelques années, je ne suis pas complètement sûr que je le dirais aujourd'hui. Parce que si vous voyez la danse et la cour d'amour des oiseaux pour conquérir une femelle, et que vous le voyez déployer une danse avec une certaine souplesse, des couleurs de plumes, etc., on se dit qu'il y a peut-être une généalogie plus profonde que ça, dans notre perception de la beauté, une généalogie qui court la vie elle-même. Alors, jusqu'où va-t-elle ? Je ne sais pas. Mais je ne suis pas complètement sûr aujourd'hui que cela soit... C'est humain, aucun doute. On remarque l'humain, ce qu'il fabrique de la beauté. Quand je vois les oiseaux, quand j'entends les oiseaux, vous savez, Ronsard a raison de parler du rossignol quand il dit « celle qu'il faut toujours que dans la bouche j'ai », vous vous rappelez, mais... Ben, il imite le rossignol qui est en train de séduire sa rossignole.
Vous avez dit que cette émergence, cette perception de la beauté était attachée au premier temps de l'humanité quand même.
Ça, c'est Pascal Pic qui le dit plus que moi.
Oui, mais il n'y a qu'à voir le premier volume
consacré
à la préhistoire. On reste quand même sans voix par les parures, les masques.
Mais peut-être il aurait fallu qu'il y ait un volume entre la préface et l'autre pour dire la beauté chez certains animaux.
Dans le vivant.
Il manque peut-être ça. Peut-être que la beauté dans le vivant, vous savez... Le plumage des oiseaux, la cour d'amour, les chants du bouvreuil ou de la mésange, etc. C'est pas rien. Et du point de vue de la musique, de la sculpture, enfin, vous voyez, il manque peut-être un élément intermédiaire, voilà.
quelle place occupe la beauté dans ce nouvel âge de l'humanité que vous, vous définissez comme luminescence ?
Ça, je ne sais pas, parce que nous sommes dans une période de transformation complète, de transformation à la fois biologique à cause de la médecine, dans notre rapport au monde, à cause de la disparition de l'agriculture, par exemple, du changement de la croissance de l'espérance de vie. Enfin, il y a des changements considérables. Du point de vue culturel, il est absolument certain que cela aura des conséquences. Aura. Mais dans ce cas-là, dès le moment où j'étudie le futur, vous savez, madame, je ne suis pas Madame Soleil. Je ne peux pas vous dire.
C'est dommage.
Mais tout ce que je sais, c'est que, pour le moment, la laideur a une forte partie.
Vous avez la violence en horreur. Et la beauté est-elle l'ennemi juré de la violence ?
C'est pas sûr. Si vous dites ennemi de la violence, vous définissez une autre violence. Quelle sera l'ennemi ? Si vous êtes contre la violence, vous faites la guerre à la violence, vous êtes violente et vous retombez sur le même. Et par conséquent, l'humanité a toujours mis un certain nombre de... à négocier, d'une certaine façon, sa propre violence. Et dès le moment où on le négocie par la violence, eh bien, c'est pas intéressant, bien sûr, il faut le négocier par autre chose. Il est probable que la totalité des actions culturelles ait été inventée par les hommes de toute culture pour précisément cerner et négocier cette question-là. Alors, c'est aussi bien la religion que les beaux-arts, que la littérature, que la langue, le dialogue, etc. Je crois que toutes les actions culturelles ont cette finalité-là.
Est-ce que la beauté est un objet pour la science ?
Il faudrait peut-être, pour mieux répondre à la question, la renverser. C'est-à-dire, si vous êtes à l'intérieur de la science, vous savez parfaitement distinguer, par exemple en mathématiques, une démonstration élégante d'une démonstration pesante et piétonne. Vous savez, si vous êtes chimiste, trouver des synthèses, quelquefois, d'une harmonie parfaite, etc. Et j'ai publié récemment un livre qui s'appelle « Paysages des sciences » où j'ai donné des photographies, quelquefois infrarouges ou quelquefois subliminaires du point de vue atomique ou du point de vue moléculaire, qui font voir des paysages magnifiques. Alors, il peut y avoir, en effet, une esthétique scientifique. Mais une science de la beauté, non. Mais une beauté de la science, oui. Voilà.
Qu'est-ce qui vous a surpris, Michel Serres, en travaillant sur le cosmétique en tant qu'appareil ?
Alors, vous m'avez parlé tout à l'heure de naturel ou d'artificiel.
Oui.
Et c'est là la question. Et vous avez raison de poser la question. Quelqu'un qui a du rouge à lèvres ne me fait pas voir ses lèvres, mais me fait voir le rouge sur sa lèvre. Et la question est de savoir qu'est-ce que ça veut dire ce rouge qui est là.
C'est la troisième variation.
C'est la troisième variation. Il y avait apparition, apparence. Et
puis,
nous n'avons pas dit, mais j'aurais dû le dire, que du point de vue du cosmos, c'était sauver les apparences, la question. Et maintenant, appareil, en effet. Et je suis un ancien marin. Bon, c'était mon métier autrefois. Je le regrette parfois. Et on a un très bon mot pour dire qu'un bateau quitte le quai. On dit qu'il appareille. C'est un étrange mot, n'est-ce pas ? Et parce qu'il n'y a pas d'appareil dans cette affaire-là. Mais il quitte le quai, il sort, il s'en va. Il abandonne ses liens, il détache les amarres, etc. Et j'étais toujours très frappé par la similitude qu'il y avait entre le mot « appareil », c'est-à-dire un appareil de téléphone ou un appareil dentaire, et
ce terme
d'appareiller, de partir. Et à force de réfléchir sur ce point, je me suis dit qu'il y avait probablement là quelque chose de très, très profond sur l'origine de nos actions techniques, de nos conduites techniques. Et je me suis aperçu qu'un marteau, par exemple, ce n'était rien de plus qu'un avant-bras et un poing qui étaient externalisés du corps, ou que la roue, ce n'était pas si difficile que ça à inventer, puisque c'était la rotation de la hanche, du genou et des chevilles qui était reproduite dans ce cercle-là. Et donc, je me suis dit que probablement, les objets techniques étaient des externalisations du corps, des appareillages. Et le mot appareillage revenait, ça sortait du corps et ça devenait un appareil. Et pourquoi un appareil ? Parce qu'il était pareil à la fonction. Vous voyez, le langage là est très, très expressif. Le marteau est pareil que l'avant-bras et le poing. Et là, le cosmétique me paraît le premier appareillage, d'une certaine manière, puisque c'est les premières choses qui sont autour de l'œil, autour des oreilles, autour de la joue, autour de la peau, etc. Même l'habit. Qu'est-ce que c'est que l'habit ? Sinon, d'abord, la peau de bête que vous avez sortie de la bête, mais c'est une seconde peau, comme si votre peau était sortie, comme si la peau du lion de Némée était sortie du corps d'Hercule lui-même, etc. Et je me suis ensuite rendu compte que le mot appareil, là, était utilisé dans le langage classique, au moins par Racine, dans le simple appareil d'une beauté qu'on vient d'arracher au sommeil. Et là, ça veut dire qu'elle est nue. Et si elle est nue, c'est-à-dire le premier appareil, c'est le premier vêtement, vous voyez. Et donc là, ça me donnait une idée, Alors encore plus intéressante pour les gens de L'Oréal, puisque les gens sérieux qui les critiquaient, qui leur disaient qu'ils étaient frivoles, disaient que précisément ce qui était sérieux, c'était les techniques. C'était la pierre taillée, c'était ce qui permettait de manger, de chasser, de trouver de la nourriture, etc. Ben oui, mais il se trouve que la première technique, c'est précisément cet appareil-là. C'est l'appareil du corps, vous voyez. Et donc les premières idées que les femmes ou les hommes ont eues de transformer leur apparence. Alors il y avait quelque chose d'assez complet dans cette variation toute simple entre apparition, apparence et appareil.
Vous avez, sous votre plume, vous avez beaucoup parlé dans vos différents livres de Homo faber, même de Homo pontifex. Et là, on trouve dans ce texte Homo cosmeticus.
C'est ça, exactement. Exactement. Il serait même assez primitif, d'une certaine manière. Il serait même assez proche de son origine, puisqu'on ne connaît pas de tombe où il n'y ait pas de poudre de couleur pour le cosmétique, et ainsi de suite. De bijoux, de parures, etc.
Est-ce que le cosmétique, c'est une constante oui. commune à l'humanité, d'accord ?
À toutes les cultures. La preuve, L'Oréal le sait d'ailleurs. Hein. Les chiffres sont étonnants. 3 femmes sur 4, quel que soit l'âge, se teint les cheveux. C'est inouï, quelles que soient les cultures. Alors les hommes, comment semble-t-il ? Ah bon, vous le savez aussi ? Ah bon, moi, je
non,
savais
mais
pas.
Beaucoup.
Ça se voit.
Oui, voilà.
Ouais, j'ai pas l'œil.
Non, vous savez, vous n'avez pas les cheveux teints.
Non, j'ai pas
voilà.
les cheveux. Vous avez un bon œil.
Une coquetterie.
Ouais. Ça va être une coquetterie de ne pas se teindre bientôt, oui, probablement.
Est-ce que le cosmétique va vers ce que vous appelez le doux ?
C'est-à-dire que j'ai fait une analyse très très serrée du masque que vous avez vu.
Oui.
C'est-à-dire de très dire. De... Oui, c'est ça. C'est-à-dire, d'abord, on se farde.
On parlait de la peau.
On parlait de la peau, ça fait une seconde peau. Et puis, peu à peu, c'est un masque un peu liquide. Et quand on se met un masque sur la figure, quelqu'un vous dit de quoi avez-vous l'air. Vous vous rappelez, j'ai dit ça. Et puis, peu à peu, tout ça devient très, très solide. Et le masque durcit et devient un cosmétique extérieur, appareillé du corps, vous voyez. Et il est étonnant que ce masque, dans le théâtre romain, on l'appelait persona.
Ah oui, j'ai appris ça.
C'est-à-dire le personnage.
Personne.
Et oui, la personne, c'est ça. Le persona, c'est le masque, vous voyez. Et la définition que je donne de l'appareillage, peu à peu, de ce masque-là, c'est une sorte de second visage qui tombe du premier, comme j'ai dit tout à l'heure que le marteau pouvait tomber du bras ou la roue pouvait tomber des membres inférieurs, vous voyez. Les premières techniques cosmétiques doivent être assez proches des premières techniques médicales en plus, vous voyez, c'est-à-dire par exemple l'appareil dentaire. Il est très curieux par exemple que la langue française, quand on dit un appareil, ma petite fille porte un appareil, on ne dit pas appareil dentaire, on dit tout de suite appareil, et comme si c'était le premier appareil.
Quel rôle la beauté peut jouer dans la démocratie de demain, même si vous ne voulez pas parler de futur ?
Enfin, je veux bien parler du futur. Votre question est un bon cas, un très très bon cas. Aujourd'hui, il est parfaitement entendu que tout est politique, que la littérature est politique, que etc. Mais vous en êtes sûr de cette affaire-là ? J'en suis pas complètement sûr, parce que quand je lis de la littérature, tout ce qui est politique, c'est ce qui est mauvais dans la littérature. C'est ce qui fait ressembler Flaubert à un journaliste. Et c'est ennuyeux comme la fumée, n'est-ce pas ? Mais ce qui précisément... Et génial dans Flaubert, c'est ce qui n'est pas politique. Et je me demande si la beauté, là, ne serait pas un bon cas. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça peut bien fiche que ce soit la démocratie ou l'aristocratie ou quel que soit d'autre ? La beauté n'a rien à voir avec tout ça. Vous voyez ? C'est un bon cas. Votre question est peut-être quelque chose qu'il faudrait reprendre et retravailler pour faire voir qu'il y a des éléments culturels indépendants du politique. Alors évidemment, bon, ben, il est vrai que dans une culture comme la Grèce antique au 5e siècle avant Jésus-Christ, ils étaient démocrates et ça a été une excellente période pour la beauté. Mais au 17e siècle français, c'était le roi absolu, c'est une excellente période pour la beauté. Et vous pouvez trouver comme ça, au hasard, des périodes de pic absolu de beauté qui sont tout à fait accompagnées de régimes politiques complètement différents. Oui. Ça tombe bien, votre question est vraiment très bonne. Oui.
Y a-t-il un humanisme sans lien avec un idéal du
de beauté ?
Oui.
Non. Non. Sans beauté, il n'y a pas de culture, sans beauté, il n'y a pas de langage, sans beauté, il n'y a pas... Et alors là, je veux bien revenir aux politiques, sans beauté, il n'y a pas de rapports humains. Je veux dire par là que les rapports humains seraient d'autant plus violents qu'il n'y a pas de beauté. C'est-à-dire, comment remédier à la question de la violence des rapports ? C'est par le dialogue, mais le meilleur des dialogues, pas le dialogue le plus barbare et le plus bas. Parce que plus il est barbare et bas, plus il multiplie la violence. Par conséquent, vous êtes obligé de le tirer vers quelque chose d'autre pour que la violence cesse ou soit négociée. Et par conséquent, je crois qu'il est probable que les banlieues dont on parle aujourd'hui, où il y a des régimes de violence, correspondent à des constructions que les architectes ont complètement ratées, ou des constructions scolaires hideuses, vous voyez. Et par conséquent, le rapport entre la laideur et la violence est, à mon avis, complètement établi. Qu'on apprenne à des enfants le sens de la beauté, je suis certain que ça serait une thérapeutique.
Est-ce qu'on peut se passer de la beauté? Est-ce que...
Écoutez, nous sommes en train aujourd'hui de faire la preuve que oui, on peut s'en passer, la preuve. Oui. Mais j'espère que j'exagère en disant ça, mais je ne peux pas m'en passer. Voilà, ça, c'est ce que je peux vous dire.
Est-ce qu'il y a une nouvelle labellisation du beau dans ce monde global là, qui est le nôtre aujourd'hui? Est-ce qu'on est arrivé à une uniformisation nouvelle?
Je ne crois pas qu'on arrive à une uniformisation. C'est difficile à dire. Le problème, c'est que le beau est devenu un marché. Ça, oui. C'est sûr. Bon, il y a un marché de l'art qui a des mauvais côtés, mais qui en a aussi de bons. Et le bon côté du marché, c'est tout simple. Le bon côté du marché, c'est de restaurer la question de la relativité du beau. La question de la relativité de la beauté consiste à dire, vous savez, c'est beau ou c'est pas beau, selon votre goût, selon les goûts et les couleurs, comme on dit, selon vous ou autre. Et ce n'est pas vrai. La preuve, c'est que rue Machin à Paris, chez les antiquaires, un masque nègre authentique va se négocier plusieurs milliers d'euros, selon qu'il est beau ou pas. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc c'est le bon côté du marché de l'art. C'est-à-dire qu'on ne négocie pas la Joconde comme un peintre du dimanche. Il n'y a pas de doute là-dessus. Par conséquent, le goût est restauré d'une certaine manière. Pas... Mais à côté de ça, évidemment, le marché de l'art peut avoir des conséquences dramatiques. Et en général, c'est celui qui cherche à vendre beaucoup se met à vouloir s'adapter au goût du public et ça formate à peu près tout le mouvement esthétique et ça dérive très rapidement vers la laideur absolue.
Et l'art s'est aussi beaucoup battu pour sortir du beau.
Oui, ça je sais. C'est des développements du XXe siècle, oui, il n'y a pas de doute.
Au bout du compte, dans ces trois variations que vous avez proposées, apparition, apparence et appareil, quel est le lien entre les trois, même si c'est trois variations sur un même air, quel souffle entre ces trois
Ben, ce qui conduit de l'un à l'autre, si vous voulez, c'est d'abord que c'est le même mot, bien entendu, et que ce mot a quelque chose à voir avec la présence, c'est-à-dire l'épiphanie. Mais ce qui a d'importance, c'est de voir que je suis passé de cette façon-là, de la perception de la beauté à la fabrication de la beauté. C'est ça qu'on me demandait pour L'Oréal. C'est-à-dire pour le livre, qu'est-ce que c'est que la beauté? La beauté se voit comme une chose réelle et elle se fabrique comme une chose artificielle. Le mot esthétique voulant dire perception et le mot art voulant dire fabrication. Et toute la question de L'Oréal, c'était de dire, peut-on fabriquer du beau? Car enfin, c'était ça leur boulot, c'était ça leur métier, c'était ça leur entreprise. Et donc, en réfléchissant à l'idée que la beauté devait être à la fois perçue et fabriquée, eh bien, c'est très simple, il fallait trouver une voie, un passage, entre la perception, c'est-à-dire l'épiphanie de ce que peut être la beauté, et la fabrication. Et j'ai trouvé cette simple trilogie de l'apparition pour la perception à l'appareil pour la fabrication. C'est tout simple.
Merci beaucoup, Michel Serres, d'avoir introduit auprès de nos auditeurs ces livres, « 100 000 ans de beauté », effectivement publié chez Gallimard, qui a reçu le mécénat de L'Oréal. De L'Oréal
c'est un livre de L'Oréal.
La fondation L'Oréal a soutenu la réalisation de l'ouvrage. Oui. C'est aussi quand même une encyclopédie placée sous la direction éditoriale d'Elisabeth Azoulay. Il s'agit de plusieurs volumes qui nous montrent un regard sur la beauté qui n'est pas vraiment ethnocentré et qui a voulu insister sur les gestes aussi, qui sont liés à toute cette fabrication dont vous avez parlé.
Des gestes du corps aussi.
Sur une période incroyablement longue, et y compris avec cette projection, titre du dernier volume, consacré au futur. Et 5 volumes, dont le premier débute par un essai de votre main, de votre plume, où vous vous interrogez sur qu'est-ce que la beauté. Merci d'être venu en parler
Merci
aujourd'hui.
Merci beaucoup.